Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 29, chapitre 5. Pour l'heure, je relevais la tête lorsque le guide déclara que le cimetière était au cœur de la société positiviste, puisqu'il était utile de s'attacher à des objets matériels pour mieux évoquer les morts. J'étais bien d'accord. C'était une mise en scène pour les vivants et pas pour les défunts. Je le suis encore. Le guide me montra ensuite le caveau des Raspail, scié au rond-point Casimir Perrier. J'avais entendu parler de François-Vincent Raspail, qui avait donné son nom à un boulevard parisien. C'était un scientifique et un homme politique en ce 19e siècle où la science venait se mêler de tout, en cette période de soif et de foi dans le progrès. Quand je fus suffisamment près du caveau, je vis une statue couverte d'un linceul dont le bras droit était agrippé à la fenêtre supérieure du monument. Le linceul couvrait même le visage et on ne savait pas si le spectre était censé rentrer ou sortir du caveau. On dit que ce linceul, expliqua le guide, représente l'épouse de François-Vincent Raspail, décédée pendant que son mari était emprisonné. C'est à un soupirail que sa main est accrochée. Le mot est plein de sens. C'était un ardent républicain et il a eu de nombreux déboires judiciaires pour s'être opposé au pouvoir royal. Au moins, il ne s'est pas retrouvé pendu comme le Tiradentes de l'histoire brésilienne, dis-je, comme pour moi-même. C'est sa femme qui se retrouve pendue à son caveau. Sa femme, qui s'appelait Henriette Trousseau, se trouve aussi à l'intérieur du caveau, rassurez-vous. Mais qui était ce Tiradentes? Un homme, scientifique lui aussi d'ailleurs, car dentiste à 16 heures, qui au XVIIIe siècle mena une rébellion au Brésil contre la couronne portugaise. Alphonse Daudet était séparé de La Fontaine par le chemin qui porte les deux noms de Molière et du fabuliste. Est-ce que l'écrivain était condamné, comme le révérend Balaguer de son conte « Les trois messes basses », à dire éternellement des messes pour avoir expédié par gourmandise celle de Noël? Rien qu'à me souvenir de ce récit qui semblait bon le midi de la France, j'avais l'impression d'entendre l'auteur me parler avec l'accent méridional. Son fils, Léon Daudet, était beaucoup moins drôle, bien qu'il avait une réputation de bon vivant et de truculence. Le fait qu'il soit monarchiste, de surcroît antisémite et admirateur de Mussolini, pour moi primé. Bien sûr, La Fontaine était aussi un fabuleux conteur. Son voisinage ne devait pas gêner le bon Daudet. Le guide raconta que le fabuliste avait lui-même rédigé son épitaphe qui put lui être apposée après qu'il fut pris de faiblesse en 1695, s'en revenant de l'Académie française. On dit qu'en faisant sa toilette mortuaire, on trouva sur lui un cilice, un tissu rugueux destiné à provoquer les douleurs de la pénitence. Chose étrange, son confesseur ne le lui avait pas prescrit. La dépouille de La Fontaine avait été transférée en 1814 au Père Lachaise, ainsi que celle de Molière. Il s'agissait, en y enterrant des célébrités, de faire une opération de communication. Et cela marcha. Les Parisiens du XIXe siècle, qui trouvaient que le Père Lachaise était bien loin, eurent soudain envie d'y reposer. Les deux heures de visite furent agréables, mais je me réjouis vers 13 heures de me retrouver seul. Près de la tombe du général Hugo, le père de l'écrivain, à l'endroit où mon guide m'avait laissé, je sortis discrètement mon sandwich au thon mayonnaise de mon sac à dos. Le pique-nique était bien indiqué interdit, mais il n'y avait pas âme qui vive, si on peut dire. Appuyé sur un petit mur, tous mes sens étaient aiguisés par d'agréables perspectives. Le goût du pain parisien et le délicieux mélange du thon et de la mayonnaise, la vue sur le chemin du dragon, ou au milieu des tombes, les arbres qui dénouaient leurs branches en attente de la frondaison, et le soleil qui léchait les pierres, l'odeur d'humidité et de bois, et Louis qui n'avait qu'à s'intéresser au silence.